Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verdusier.
Et je suis Kiélis.
Anne-Laure Pinault.
Captain Archie.
C'est parti!
Alors, certaines et certains surnagent quand d'autres sont emportés dans une masse informe. C'est bien sûr de la rentrée littéraire dont on va parler cette semaine. Alors, bienvenue dans cette troisième saison de Quoi de Meuf. On est ravis de vous retrouver. Et pour ce premier épisode, toute l'équipe est réunie.
Ouais!
Hello!
Hello!
Et alors, on va aussi vous présenter une nouvelle collaboratrice, Kaota Archie. Salut.
Salut.
Alors, tu es sociologue et romancière, autrice notamment de « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », « À l'origine, notre père obscur » et « L'ampleur du saccage ». Est-ce que j'ai tout bien dit?
Un premier roman, mais on oublie toujours les premiers romans.
C'est ah, ok.
Aucun souci.
Aucun souci.
Bon,
alors, bienvenue.
Merci beaucoup.
Et alors, du côté des news, que nous apprend la littérature cette semaine?
Alors, ça vous aura sûrement pas échappé, mais on le rappelle quand même à toute fin utile, l'immense Toni Morrison, prix Nobel de littérature, nous a quittés. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille vraiment de relire Home, Beloved, L'œil le plus bleu ou mon préféré, celui-là.
Donc, c'était cet été. Et Anne-Laure ?
Bah, passer ce deuil atroce. Une autre nouvelle de fou, c'est Marcel Proust qui revient dans l'actualité.
Qui revient de par-delà les morts.
De par-delà les morts. Les éditions Fallois ressortent des nouvelles inédites très bientôt. C'est un peu un énorme truc pour les geeks comme moi, sachant que c'est des nouvelles qui vont aborder l'homosexualité de Marcel Proust. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit sortir ces nouvelles alors que son vœu le plus cher était qu'elles ne sortent jamais? Ça, c'est une question un peu cruciale, surtout que moi, perso, j'ai vraiment envie de les lire, mais dans le contexte dans lequel il les a écrites, je comprendrais qu'on les garde secrètes par respect pour lui. Donc voilà, je ne sais pas, entre mon désir profond et le sien, ce qu'il faut choisir, mais...
Bon, tu nous diras si tu les as lus, en tout cas.
Ah bah oui, bien sûr.
Et alors, pour revenir à nos moutons, donc quelques chiffres qui donnent un peu le tournis. La rentrée littéraire, c'est 524 romans, dont 336 français, et ça comprend 82 premiers romans. Il y en a aussi 188 étrangers, donc tout ça, c'est selon l'agence France Presse. Alors, les éditeuristes ne sont pas nés de la dernière pluie, puisque il et elle ont flairé le bon filon avec les questions de genre, donc ça arrange pas mal nos affaires. Mais c'est vrai qu'il suffit pas de balancer des héroïnes inspirantes, il faut aussi voir qui écrit et comment on en parle, puisque ce sont majoritairement des femmes qui lisent et qui achètent des livres. Et on rappelle quand même que le monde de l'édition n'est pas spécialement tendre avec ses autrices. D'ailleurs, du côté des prix, le Goncourt existe depuis 1903 et seules 12 autrices l'ont reçu pour l'instant, donc c'est pas beaucoup. Et dans la vénérable Académie française qui compte 37 membres, seules 5 sont des femmes. Donc voilà. Il y a du boulot. Et alors, pour présenter un petit peu cette rentrée littéraire, du côté américain, on peut citer notamment Christine Roupe-Aignan, qui avait écrit une nouvelle, peut-être vous en souvenez, une nouvelle dans le New Yorker qui s'appelait Cat Person, sur le consentement et la zone grise.
C'était génial.
Ouais.
Du côté de chez nous, il y a aussi Élise Thiébaud qui avait écrit un livre sur les règles et là qui publie un essai sur le récit national qui s'appelle « Nos ancêtres les Gauloises ». On peut aussi citer « Se taire » de Mazarine Pinjot sur la sidération et le viol, mais aussi Geoffrine Donadieu qui parle de la pédophilie féminine dans son livre ou encore Virginie Noir qui signe « Le corps d'après » sur la grossesse. Voilà, alors nous de notre côté, on vous a fait notre sélection. On va y retrouver Léonora Miano, Yvan Jablonka, Karine Thuil et bien d'autres. Et alors peut-être pour commencer, on va parler du livre d'Yvan Jablonka, puisque c'est un homme qui nous parle, ou peut-être qui nous mansplaine le féminisme, le sexisme, le patriarcat. Faut-il s'attendre au pire? On va donner la parole à l'intraitable Kaoutar pour nous présenter ce livre.
Alors effectivement, le livre d'Yvan Jablonka, Des hommes justes, qui est sous-titré Du patriarcat aux nouvelles masculinités, c'est un livre sur lequel on ne peut que se jeter, sur un livre sur lequel on ne peut que porter des espoirs assez vifs au regard du contexte actuel et de l'importance de cette question. Mais en essayant de réfléchir un peu à ce que j'allais pouvoir dire de ce livre-là, il y a quelque chose de l'attraction et puis il y a fondamentalement quelque chose de l'ordre de la chute.
Vous savez,
comme quand on... Les rockstars, parfois, elles se jettent dans la foule, et puis parfois, il y a des foules qui sont très... coopérante et qui rattrape le chanteur, la chanteuse, le lecteur, la lectrice. Et ici, c'est une foule très peu solidaire.
Clairsemée.
Puisque une fois que je me suis jetée sur le livre, je suis tombée. Plus sérieusement, c'est un livre qui mérite d'exister. Le travail de d'Ivan Jablonka, on le connaît. On a été tous marqués, plus ou moins positivement, négativement, par le livre qui traitait de Laetitia. Et il me semble qu'effectivement, il faudrait lire ce nouvel opus de d'Ivan Jablonka dans cette continuité-là, dans la continuité du livre sur Laetitia. Il considère que ce qui a été fait à Laetitia sonne le glas de la mort des hommes, une certaine forme d'humanité masculine est morte dans le cadre de ce drame. Et l'ambition d'Ivan Jablonka est maintenant de faire renaître ces hommes, comme il dit, et il dit plus particulièrement des hommes justes. Donc ici, on voit bien que la notion de juste, de justesse, elle appelle à une éthique, elle appelle à quelque chose d'assez fondamental et quelque chose de la philosophie kantienne comme ça qui court à travers l'ouvrage. Simplement, il y a trois points qui me paraissent assez problématiques et sur lesquels j'aurais souhaité revenir et puis discuter un peu avec vous. Dans un premier temps, il y a quelque chose qui revient de manière très récurrente dans cet ouvrage-là. C'est l'idée, pour parler trivialement, mais je parle trivialement puisque c'est l'expression d'Ivan Jablonka lui-même, notamment dans les entretiens qu'il a pu donner à la radio, il pose souvent la question « c'est quoi un mec bien ? Que peut-on mettre dans cette expression « un mec bien ?» Et puis il s'interroge, et puis on le suit dans ses interrogations. Ce qui m'a un peu dérangé avec cette manière de concevoir les choses, avec cette question, qui est une question très générale, qu'est-ce qu'un mec bien ? Comment fonder un mec bien ? Comment créer des mecs bien ? C'est que j'ai le sentiment que ce que Ivan Jablonka essaie surtout de nous dire, c'est « mais en fait, vous savez, ça existe des mecs bien ». Et il me semble que cette posture, que cette manière d'appréhender la question, elle est un peu dérangeante, puisque au regard de l'histoire du féminisme et des combats et des productions intellectuelles qui l'ont accompagnée, notre question n'est plus de savoir s'il existe des mecs bien ou s'il n'existe pas. La question, elle est bien évidemment structurelle et fondamentalement institutionnelle.
Et c'est le fameux Not All Men, surtout.
Exactement, exactement. Et c'est très difficile, effectivement, de ne pas lire ce livre et d'entendre en soi une petite voix qui répète constamment « mais ils sont tous trash, en fait ». C'est tout. Et ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel il faille revenir ou quelque chose qu'il faille déconstruire. C'est un fait. C'est ainsi. C'est l'œuvre patriarcale dans toute sa grandeur. Un deuxième point qui est peut-être encore un peu plus complexe, c'est que la question qui est posée par Ivan Jablonka et la posture qui est la sienne, c'est finalement celle d'être un dominant qui s'interroge et qui décide d'être contre la domination. Un imposant qui décide de lutter contre l'imposition. Donc cette position-là, de la participation des hommes au courant féministe, c'est quelque chose qui est présent, c'est quelque chose qui a été travaillé, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes ont beaucoup écrit. On regrette qu'Ivan Jablonka ne s'appuie pas davantage sur ces travaux-là, que ce soit des travaux théoriques ou des travaux plus pratiques, plus empiriques. Et j'ai été aussi assez gênée par l'expression des hommes féministes. Pas tant la partie féministe que la partie homme. Et je crois que cela vient principalement du fait que pour Ivan Jablonka, il y a quelque chose dans le féminisme qui relève d'un projet, qui relève d'une utopie, qui relève d'une éthique. Par rapport à cela, nous sommes toutes d'accord. Mais il y a aussi quelque chose qui est absolument fondamental, qui est la question du militantisme, qui est la question de l'action, qui est la question de la présence sur le terrain, qui est la question vraiment de la participation, de mettre sa vie en jeu en tant qu'homme, d'être non pas des alliés mais des complices, qui est quelque chose sur lequel on pourra revenir et qui me semble être fondamentalement important. Et là-dessus, Ivan Jablonka ne dit pas grand-chose. Il demeure dans une forme de posture un peu surplombante, un peu haute, parfois hautaine. Dernier point, et je garde toujours le meilleur pour la fin, c'est évidemment des passages qui sont très, très brefs, sur lesquels il ne s'attarde pas longtemps. Il y a quelque chose dans cet ouvrage-là qui peut être problématique, puisque cela appelle souvent à des arguments d'autorité. Il me semble que par rapport à un ouvrage comme ça, c'est très difficile de faire preuve d'autorité dans l'argumentation, et qui est la dimension que j'ai trouvée très ethnocentrée des références, des questionnements, et une forme de distinction qui court entre les lignes, sans être pleinement assumé et pleinement discuté, entre quelque chose qui serait un féminisme universaliste et un féminisme qu'il appelle différentialiste. Et non content de faire cette distinction, sur laquelle on peut évidemment discuter, Yvan Jablonka distribue des bons et des mauvais points. Et bien évidemment, les mauvais points ici vont plutôt au féminisme différentialiste, en ce qu'il serait incapable de lier les femmes entre elles, puisque la question de l'appartenance de classe et la question des rapports de pouvoir, notamment la question de la racisation, sont à chaque fois sous-traitées ou non traitées ou maltraitées. Et il me semble encore une fois qu'aujourd'hui, sans vouloir tout ramener à la question de l'intersectionnalité, mérite d'être posée. À l'intérieur du groupe des femmes, il y a des femmes qui sont dominantes, il y a des femmes qui sont dominées. La même chose peut tout à fait se dire des groupes masculins. Et il me semble ici qu'il y a quelque chose d'une forme de légitimité d'un féminisme plutôt blanc qui est regrettable, puisque c'est une manière à nouveau d'invisibiliser certaines femmes, d'invisibiliser certaines luttes, et donc de faire œuvre d'injustice.
Et alors toi, Anne-Laure, tu l'as lu aussi ?
Oui, je vais en parler dans un terme un peu moins châtié que le tien. Moi, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, Yvan Jablonka, j'ai toujours eu une sorte de suspicion, surtout quand j'avais lu Laetitia, je suis une fan de Faits divers, et donc je m'étais jetée sur le livre, et tout le long, j'étais très gênée de cet homme qui utilisait le corps de cette jeune fille comme un support pour ses idées réchauffées. Et tout le long, j'étais vraiment atrocement gênée par ce regard-là. Est-ce qu'il se positionnait comme quelqu'un qui aurait pu tuer cette jeune fille, ou quelqu'un qui pouvait comprendre pourquoi cet homme avait tué cette jeune fille, se battre contre ce systématisme ? Je ne le savais pas. C'était vraiment très bizarre comme sensation. Et là, dans ce livre-là, j'ai vraiment l'impression que c'est la continuité, comme tu disais. C'est « bon, je vais faire un livre avec des choses que j'ai lues, relu et qui existe partout, mais moi, Yvan Jablonka, je peux arriver avec un sceau de supériorité et dire que tous les hommes ne sont pas comme ça. Et le petit point positif que je trouve dans cette histoire, c'est que ça permet à certaines personnes peut-être d'entrer dans le féminisme d'une autre façon.
Certaines personnes, des hommes.
Des hommes, mais pas seulement des hommes. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent aussi plus se reconnaître là-dedans parce que c'est un homme qui parle, donc peut-être qu'en effet, ce n'est pas du féminisme violent. Il y a beaucoup de femmes qui pensent comme ça aussi. J'ai lu l'entretien qu'il a donné dans Society. Donc Society, on sait que ce magazine peut publier certains articles qui peuvent être un peu, on va dire, complexes. Donc de lire cet entretien dans Society, je trouve que c'était positif parce que si moi je l'ai lu, beaucoup de gens l'ont lu et je peux avoir, j'adore mes opinions évidemment puisque c'est les miennes, mais d'autres personnes peuvent entrer dans le féminisme comme ça et ça c'est quelque chose qui est positif. Après c'est triste qu'il faille le cheval de Troie d'un homme blanc pour amener des personnes à réfléchir sur ces questions-là, mais bon, on peut se contenter parfois de choses comme ça.
On peut se relever après être tombé, on se relève et puis...
Et du coup, toi, Clémentine, tu l'as pas lu, mais tu as lu quelque chose d'un peu cool, Les choses humaines de Karine Thuil.
Oui, alors effectivement, ce roman, d'ailleurs, à l'heure où on enregistre, fait partie de la première sélection du Goncourt. Donc évidemment, moi aussi, je me suis ruée ventre à terre sur ce roman qui digère et qui brasse l'actualité de MeToo, non sans un certain opportunisme, on peut le dire. Donc il y a de tout là-dedans, dans ce fourre-tout, des personnalités médiatiques, une accusation de viol, des réseaux sociaux particulièrement hargneux, la question du consentement. Voilà, il faut savoir que le livre s'inspire d'une affaire qui a eu lieu à Stanford il y a quelques années.
He was a star athlete at one of America's elite universities who is now generating national outrage after receiving just a 6-month sentence for sexually assaulting a young woman.
Donc il y a la mère qui est une sorte d'Elisabeth Badinter, le père un présentateur très connu du genre Michel Drucker et leur fils brillant Alexandre qui est accusé de viol lors d'une soirée et d'un bizutage. Alors bon, comme beaucoup de choses ont été déjà dites et écrites et répétées sur MeToo, je trouve qu'il est assez difficile d'être original. Alors en revanche, je serais quand même assez bonne cliente de fiction inspirée par MeToo et de fiction de qualité. Alors moi déjà, c'est l'écriture de Karine Tuile, c'est pas vraiment l'écriture que j'aime. Quelqu'un l'a comparé d'ailleurs à une série télévision, c'est vrai. Je trouve que le style n'est pas très inspiré. Mais en fait, je trouve surtout que le livre est assez déplaisant. Pas tellement parce qu'il se place du point de vue de l'agresseur, puisqu'après tout, c'est les choix du point de vue, ce sont des choix arbitraires qu'on peut défendre, respecter. Mais pour moi, le paradoxe, c'est vraiment que le sujet est très polémique, mais que le livre, à mon avis, n'offre aucun point de vue. C'est-à-dire que tout le monde est renvoyé dos à dos, donc victime et agresseur. Et en fait, j'ai du mal à comprendre vraiment la nature du discours de Karine Tuile, ni ce qu'elle nous dit finalement de MeToo. Donc je trouve que c'est un objet assez curieux. Je sais que Pauline, toi aussi, tu l'as lu.
Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, déjà, je trouve que le livre aligne les clichés parisiens comme si elle cherchait à faire une espèce de somme de toutes les scènes de la vie, supposées en tout cas, ou réelles, de l'élite médiatique en mode galerie de portraits de personnages antipathiques avec leur bassesse, leur divorce, l'obsession des apparences.
C'est balzacien, en diable.
Et à la fois, c'est un peu hypnotisant, et d'ailleurs, c'est une lecture quand même très fluide et facile, il faut le dire. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elle cède quand même à certaines facilités. Et moi aussi, j'ai été très intriguée par ce récit des violences en col blanc. Elle aurait pu en faire quelque chose de poignant, je pense, vraiment renverser la table ou le point de vue. Je trouve pas que ça soit le cas. Je trouve qu'il y a des moments où ça me fait limite penser à du Houellebecq, même du mauvais Houellebecq, dans la manière dont elle décrit la disgrâce de ses personnages masculins, donc le père obsédé par son apparence, sa vieillesse, qui a peur de se faire éjecter de son émission politique, et son fils tourmenté, qui se décrit lui-même comme un amoureux transi alors qu'il harcèle son ex. Voilà. Je trouve que c'est pas complaisant, mais il y a comme une fascination et une espèce d'ambiguïté sur ces hommes qui, moi, me met mal à l'aise et qui, en plus, se confirme dans le tout dernier chapitre que j'ai lu hier soir et que j'ai trouvé vraiment révoltant.
Tu en as mal dormi, ma pauvre.
Ouais, que, enfin, vraiment dans sa conclusion qui est d'un pessimisme et d'une bêtise et enfin qui a aucun souffle. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement gênant. Karine Tuile, elle a assisté à beaucoup de procès, ça sent quand même. Elle essaie de les retracer presque en temps réel. Elle essaie de parler d'une certaine justice de classe aussi, puisque elle raconte les accusations de viol du point de vue de la famille, donc du mec privilégié à qui tout réussit face à sa victime qui elle a grandi dans le 93 dans une famille juive orthodoxe et qui a déjà subi des violences. Donc ça, c'est intéressant. Mais en fait, je trouve qu'à force de se placer du point de vue en fait de la famille du violeur, la victime est vraiment désincarnée et ça finit par me gêner. Et en vrai, ce livre aussi aligne tout ce qui se fait en matière de victim blaming. Alors après, ça reflète une certaine réalité, je pense, et elle essaie de contrebalancer parfois, mais c'est vraiment ce discours-là qui surnage et moi, ça me rend malade à la fin. Et bon, après, on peut dire qu'on peut lui reconnaître qu'elle tente quelque chose, qu'elle essaie de faire une fiction à partir de MeToo, mais en fait, je pense qu'elle n'arrive pas du tout au bout de son ambition pour ce livre.
Surtout, refléter la réalité, c'est pas avoir un point de vue d'autrice, enfin, ou d'auteur.
Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, il faut être journaliste et les journalistes retracent très bien. Tu mets un journaliste dans une salle d'audience en cours d'assises, ça donne des super reportages, mais là, il faudrait avoir un peu de surplomb, en fait, sur ce sujet.
Et alors toi, Kaoutar, ça t'est un peu tombé des mains, j'ai l'impression.
Oui, et puis j'ai trouvé que c'était que le livre a vraiment quelque chose de symptomatique. En repensant à l'ouvrage d'Yvan Jablonka, en lisant l'ouvrage de Karine Tuile, en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement, c'est-à-dire des personnalités, des personnes qui ont la possibilité de publier, de prendre la parole en public, etc., et qui s'arriment à des problématiques fondamentalement politiques. Et quand je dis vraiment fondamentalement politique, c'est-à-dire que pour certains et pour certaines, ce dont parle Yvan Jablonka et ce dont parle Karine Tuile, c'est une histoire de vie ou de mort. Et très souvent, la mort survient. Et leur volonté, par rapport à des choses extrêmement politiques, de ne pas être politique. Ou en tout cas, de dépolitiser leurs propos. Et chez Karine Tuile, c'est vraiment très sensible, puisque lorsqu'on l'entend parler, elle le dit. Elle dit « mais... je ne fais pas de politique, je fais de la littérature. » Ou alors elle peut dire encore...
Comme si c'était incompatible.
Comme si c'était incompatible. Mmh. Ou alors l'idée de la morale. La littérature n'est pas là pour offrir de la morale, ou même comme ils peuvent dire, de la moraline. C'est très problématique. Et je trouve que ça pose vraiment la question de l'usage que l'on fait des fictions, qui ici sont vraiment des fonctions. On parlait de la fin. Il y a même une forme d'antiféminisme, de la chute du récit qui pose question. Et en soi, l'antiféminisme ne me dérange pas. Ça peut complètement être une posture. On a bien quelque chose qui s'appelle la littérature de droite, voire la littérature d'extrême droite. Donc on pourrait imaginer une littérature...
Mais il faudrait qu'elle se présente pleinement. Comme telle. Déjà,
exactement, peut-être. Mais il faudrait qu'elle s'assume. Et moi, je suis toujours partagée par cette volonté de rester propre, en fait. Parce que le féminisme, mine de rien, c'est quand même quelque chose de sale. C'est quelque chose qui met en jeu le sang, qui met en jeu des coups, qui met en jeu des vies brisées. C'est pas chic, c'est dur, c'est la pure résistance. Et on ne peut pas, il me semble, s'accrocher à de tels sujets et vouloir avoir les mains propres. Ou alors on n'a pas de mains. Et moi, j'estime que Karine Thuil, par exemple, a les mains pures, mais elle n'a pas de mains. Et en littérature, c'est très, très problématique.
Et ça lui garantit juste un accès au plateau de la grande librairie.
Oui, tout à fait.
Et au prix reçu par un homme.
Tout à fait.
Les choses humaines, c'est le titre du roman de Karine Thuil qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Karine Thuil, à vous lire, ce qui est au cœur de toute notre vie, c'est la fureur sexuelle.
Et toi, Clémentine, tu voulais nous parler de Conversation entre amis de Sally Rooney.
Oui, alors vraiment sans transition par rapport au livre précédent. Alors moi, j'étais très curieuse de ce livre dont on a surtout entendu parler dans les pays anglo-saxons, peut-être moins en France. Alors il faut savoir que Sally Rooney, c'est vraiment la jeune garde de la littérature irlandaise. Elle est bardée de prix à 27 ans. On dit partout que c'est la J.D. Salinger, millennial, par rapport à l'usage qu'elle fait dans ses livres, des mails, des textos, etc. Donc moi, j'avais à la fois un peu peur, parce que je trouve que les personnages sont très, voire trop proches de nous. Donc il y a Frances, qui est une jeune autrice, une jeune poétesse, et son ex-copine, sa meilleure amie Bobby, et un quatuor amoureux qu'elle forme avec un couple plus âgé qui a du succès, une photographe et un acteur, Melissa et Nick. Voilà, et donc la manière dont tout ça va se développer. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne surprise, que la plume était fine et acérée, qu'elle mêlait le roman de l'adultère du 19e siècle et une tradition du roman confessionnel, même plus récente, avec des autrices contemporaines comme la canadienne Sheila Hattie. Et j'ai vraiment hâte de lire le suivant qui s'appelle Normal People et qui caracole en tête des ventes dans les pays anglo-saxons. Je sais que toi aussi, pendant tes vacances, tu l'as lu, Anne-Laure. Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Ouais, bah je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. Normal People, bah je pense que ça aurait aussi pu être le titre de ce roman. Ouais. Parce que comme tu dis, ils sont vraiment très proches de nous. D'habitude, quand on lit dans la critique d'un livre que c'est un roman générationnel, à chaque fois je fuis parce que je
alerte.
Me dis qu'est-ce qu'on va raconter. Ah oui, on s'envoie des textos, on ne se parle plus, on est obsédé par le temps qui passe.
C'était mieux avant.
En le fuyant, j'en sais pas. Et en fait, là, pas du tout. Pour le coup, ce que j'aime bien, c'est que les personnages sont hyper bien écrits. Enfin, hyper. Chacun a son petit monde. Mélissa, qui peut être présentée comme quelqu'un d'assez hautain, éloigné, finalement, elle est super, super dense et complexe. Et le personnage principal, donc Frances, qui est un peu la narratrice, elle est absolument géniale et en effet très proche de nous. C'est-à-dire qu'elle a eu des histoires avec des femmes jusqu'à présent. Et là, elle rencontre un homme. Et je trouve que c'est super chouette comment c'est écrit cette rencontre-là. Et tout ce que ça explose de ses convictions, je trouve que c'est vraiment très, très joli. Le personnage de Bobby ferait fantasmer n'importe quelle lesbienne. C'est un peu l'équivalent de Shane dans Elleworld, mais en plus intello. Par exemple, leur conversation écrite, elle s'envoie des textos et des mails hyper intello sur des choses diverses et variées. Je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans. Donc ça fait un peu plaisir de se lire et de lire des personnages comme ceci. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'on parle de l'endométriose d'une façon complètement inattendue, c'est-à-dire que c'est pas dans le communiqué de presse, c'est pas dans la quatrième de couverture, alors que ça pourrait être un sujet qui pourrait être brandé, en fait. Elle aurait pu s'en vanter de parler de ce sujet-là. Là, ça arrive comme ça, et on s'y attend pas, et surtout, elle pose des questions intéressantes sur cette maladie, sur le fait qu'elle a pas été étudiée pendant longtemps, sur ce que ça veut dire de son corps et de son rapport au corps, et de son rapport à la sexualité. Donc, je trouve ça vraiment très chouette. Et aussi, on parle de la relation avec les parents. Et moi, j'aime beaucoup les romans qui parlent de ça parce que je pense que les trentenaires, je me mets dedans, hein, on a ce problème entre la dépendance avec nos parents et l'indépendance aussi. Et là, c'est traité de façon très maligne. Donc, ça fait plaisir de lire ça, vraiment.
Mmh. Et ça se lit vite. On vous le recommande. Et alors, pour faire un peu un tour de table des lectures de chacune, toi, Kiémis, tu t'es jetée sur le roman de la franco-camerounaise Leonora Miano, donc qui est déjà l'autrice de L'intérieur de la nuit, Contour du jour qui vient ou encore La saison de l'ombre. On a beaucoup glosé sur ce pavé depuis la rentrée. Et à l'heure où on parle, il fait partie, et on en est bien contente, de la première sélection du Goncourt. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, tous les gens qui me connaissent savent à quel point j'adore Leonora Miano.
Oui.
Ce que j'aime beaucoup, c'est ces livres qui sont à la fois très poétiques, extrêmement politiques, notamment Crépuscule du tourment, je pense au premier. Elle a même écrit des essais, en fait. Elle a aussi écrit L'impératif transgressif, je crois que c'est un essai qui est tiré de conférences qu'elle a pu faire. Et donc là, dans Rouge impératrice, elle nous emmène au début du 22e siècle, dans une Afrique où les rêves panafricains ont abouti, ou du moins sont en très très bonne voie d'aboutir. Donc en gros...
Yes.
Très gros yes pour moi. Donc en fait, elle fait une très très longue description du Catiupa. Donc c'est un état, c'est l'état en fait panafricain unifié. Donc on comprend en fait tous les efforts qui ont été faits par les Africains pour devenir souverains de leurs terres, comment ça a pu bouleverser l'échiquier mondial et sur tous les plans, donc à la fois en termes politiques, en termes géopolitiques et aussi beaucoup en termes spirituels, ce que je trouve extrêmement intéressant. Et Rouge impératrice, pour moi, c'est vraiment le livre qui pousse les murs. Moi, j'avais déjà beaucoup les références de textes panafricains, ce qui permet aussi de lire entre les lignes, de comprendre où elles vont venir. Et elle fait aussi référence à des choses dont elle parlait déjà dans ses précédents livres. Mais en fait, ton regard, il est totalement renversé. Mais moi, en tant que afroféministe, c'est pas mon regard est renversé, c'est plus mon horizon, il est élargi. Et ça m'a fait du bien en fait de lire ce roman d'anticipation parce que justement en fait il pousse les murs de manière extrêmement radicale. Rien que dans son écriture en fait, elle utilise beaucoup des mots de langue africaine, Et rien que pour ça en fait, c'est pour des gens qui sont habitués à lire dans des langues qu'ils comprennent, c'est un peu déstabilisant. Parce que déjà, on n'a pas l'habitude d'être défini par des langues qu'on connaît peu. Et ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et ce qui est intéressant aussi dans son livre, moi, c'est pas mon intérêt premier, je vais le dire. Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, j'ai beaucoup entendu. On retourne le regard, les réfugiés. Parce qu'effectivement, en fait, dans son livre, les réfugiés qu'elle appelle sinistrés viennent d'Europe. En gros,
c'est tellement génial cette idée.
Elles viennent d'Europe et il y a tous les défis et même plus que des défis parce que c'est pas un renversement. Pourquoi ? Parce que ici, quand les réfugiés viennent, ils sont pas dans une posture où ils étaient. Ils viennent dans un espace qu'ils ont anciennement colonisé ou que leur pays a anciennement colonisé. Là, c'est le cas et donc on voit la particularité de ces générations en fait de personnes qui se retrouvent dans des positions subalternes alors qu'elles ont eu l'habitude d'être hégémonique, donc ça c'est extrêmement intéressant. On voit aussi les conflits entre les différentes tendances entre guillemets dites panafricaines, et je dois le dire, je suis assez surprise du succès, pas tant par la qualité du livre, parce que bon, c'est du Leonora Miano, c'est fabuleux, c'est extrêmement poétique, mais par le fait qu'il soit aussi accepté, alors que c'est extrêmement radical ce qu'il a écrit à l'intérieur. Vraiment, quand on lit entre les livres, on se dit mais c'est moi, quand je le lis, je me dis, mais c'est un livre, je le vois plus interdit que encensé, en fait. Bon, après, effectivement, il y a l'histoire d'amour qui nous permet de rentrer un peu dans le livre, entre Boya, donc la femme rouge, donc la rouge impératrice, et le chef, en fait, du Catiupa. Donc, c'est une très belle histoire d'amour entre Africains. Il faut le noter, elle a dit dans une intervention à Violette & Co que c'était absolument radical un livre qui montre l'Afrique dans une position de puissance et qui propose aussi un récit de l'amour entre Africains. C'est extrêmement puissant. Mais bon, je suis toujours très critique. Enfin, c'est pas critique, mais je suis très... surprise, parfois je me dis, mais est-ce que les gens ont vraiment lu le livre? Est-ce que les gens ont vraiment tout compris de ce qu'elle dit? Est-ce que les gens ont compris à quel point c'est radical et puissant?
Ça a l'air révolutionnaire.
Ouais, c'est un peu... Bah, franchement, c'est le terme. C'est très révolutionnaire.
Ça donne trop envie. Mais ouais. Ce que tu disais sur la langue, ça me rappelle un peu le livre de Lydie Salvert, Pas pleurer, qui avait gagné le Goncourt et qui mêlait le français et l'espagnol, mais sans sous-titres, sans traduction, quoi. Et c'était assez incroyable, en fait.
Bah, Léonore Ramiano, elle dit à un moment, donc quand elle est allée à la librairie Violette & Co, elle dit qu'il y a eu un débat parce qu'elle, elle voulait pas mettre de glossaire à la base. Elle voulait dire, bon bah écoutez, débrouillez-vous. Il y a plein de mots que vous comprenez pas qui définissent vraiment tout, hein, vraiment les objets du quotidien, les pratiques politiques, etc., et religieuses et spirituelles. Et au début, elle disait non, débrouillez-vous, mais bon, Grasset a dit, bon... Mais quand même un glossaire à la fin, mais c'est très drôle. Il y a une petite phrase qui est très marrante, elle dit « J'ai traduit quelques mots, mais si vous voulez plus de détails, je vous invite à rechercher par vous-même.
» Lol. Ouais.
Et alors, trop du fou. Côté du Mexique, justement, Anne-Laure, hein, quelle nouvelle ?
Alors moi, j'ai eu un énorme coup de cœur, là, pour le coup, ça fait longtemps, pour « Les archives des enfants perdus » de l'autrice mexicaine Valeria Luiselli. C'est sorti aux éditions de l'Olivier. Et franchement, c'est merveilleux. Donc, on suit la narratrice qui est partie dans une sorte de road trip avec son mec et leurs deux enfants respectifs, qui sont baptisés le garçon et la petite fille. Et l'un et l'autre travaillent sur des questions très dures. Ils sont documentaristes audio. Donc, lui travaille sur les derniers résistants Apaches. Et elle travaille sur les enfants qui arrivent seuls à la frontière et qui sont retenus dans les centres de rétention. Et ils sont habités par leur sujet. Et le fait qu'ils soient habités par leur sujet détruit leur couple, puisqu'ils sont individuellement habités par ces sujets-là. Et ils partent à la recherche des derniers Apaches, donc dans la voiture. Et pendant que leur couple se détruit progressivement, les enfants sont témoins de tout ça. Ils sont à l'arrière sur la banquette, ils écoutent les Apaches, ils écoutent les enfants retenus et se qualifient eux-mêmes d'enfants perdus petit à petit parce qu'ils sont un peu perdus. Et je trouve que c'est absolument merveilleux comment ces quatre personnages vivant dans cette petite voiture voient les paysages défiler derrière les fenêtres, voient les traces des derniers Apaches, ce que c'est, les enfants apprennent ce que c'est que la résistance, les enfants apprennent le sort de d'autres enfants dans des centres de rétention, et c'est écrit mais merveilleusement, et on a envie de... En fait, ça pose des questions à la fois sur nous, notre métier, qu'est-ce qu'on met dans les sujets qu'on choisit de travailler, pourquoi on choisit de les travailler et comment ça peut nous transformer. Et c'est aussi un super livre parce que ça parle des enfants d'aujourd'hui. Comment ils contemplent l'actualité, comment ils acceptent cette actualité-là et la prennent en eux, la modifient, la poétisent. Et franchement, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, je ne connaissais pas cette autrice avant de tomber sur ce livre et je le conseille à tout le monde.
On va le garder pour notre liste de cadeaux de Noël, je pense.
Ouais.
Et alors toi, Kaoutar, tu as lu le livre de Serge Chalandon qui parle du cancer du sein, si je ne m'abuse.
Oui, effectivement, livre de Chalandon qui est titré « Une joie féroce », qui est un très beau, très beau titre, et qui revient effectivement sur une expérience intime. C'est quelque chose de récurrent chez cet auteur, de ne parler uniquement que des sujets qu'il a vécu. Il a cette manière très talentueuse, très belle, de fusionner constamment son propre vécu et puis... La représentation qu'il essaye d'en donner à ses lecteurs et lectrices. Et effectivement, Une joie féroce revient sur l'expérience du cancer du sein à partir du point de vue d'une jeune femme qui un jour va rentrer dans le pavillon où sont regroupés les hommes et les femmes qui sont traités. Et là où on aurait pu imaginer un livre... difficile, un livre lourd, parce que ce sont des thématiques difficiles et avec lesquelles, esthétiquement parlant, il est parfois compliqué de faire quelque chose de dynamique, quelque chose de revivifiant. Chalandon y arrive très bien, puisqu'il a cette astuce qui, en fait, se révèle être une sorte de vision politique beaucoup plus ancrée que ce qu'elle ne laisse apparaître, de faire de ces femmes... de cette femme et des femmes qu'elle va rencontrer, des sortes de guerrières, des sortes de braqueuses des temps modernes, en posant de manière très franche et très directe la question de l'argent. Et c'est quelque chose, il me semble, qui est assez fondamental, à savoir d'essayer de ramener cette expérience de la maladie à des éléments qui sont fondamentaux, à savoir les possibilités économiques de guérison. Et on sait, par ailleurs, si on élargit un peu le spectre, que la question de la guérison et la période de l'après-cancer sont très fortement liées et à l'appartenance de genre et à l'appartenance de classe. Donc j'y ai aussi vu, je ne sais pas si l'auteur a lu des travaux sociologiques qui porteraient sur ces questions-là, mais j'ai aussi trouvé que l'ouvrage était littérairement très beau, très touchant, très, très important, et en même temps, scientifiquement, plutôt juste. Mmh. Scientifiquement, plutôt bien, bien ancré, bien assis. Chalandon sait où il habite. C'est quelque chose qui me vient souvent quand je le lis. Il sait où il habite. Il n'est pas ballotté, il ne va pas, il ne vient pas. Il est profondément ancré dans la terre. Et j'ai trouvé que ce livre-là, Une joie féroce, est porteur de cette manière comme ça de rendre à ces femmes-là leur agentivité, c'est-à-dire leur capacité, comme ça leur agency à se déployer dans des contraintes extrêmement fortes, extrêmement lourdes, la précarité sociale, mais aussi bien évidemment la précarité du corps, la précarité familiale. Et voilà, de cette manière-là, il y a quelque chose qui se dessine et qui est très beau.
On conseille donc ce livre à Yvan Jablonka.
Tout à fait.
Pauline, de ton côté, tu as lu le livre de Justine Beau qui porte le titre « Onanisme ». Je pense que ça te correspond très bien. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, donc je voulais parler de « Onanisme », le cinquième roman de la jeune romancière Justine Beau qui publie chez Grasset et qui, à mon avis, aurait mérité plus de visibilité dans cette rentrée littéraire. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme de 20 ans qui est vendeuse au drive de McDonald's dans la ville de Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales. Elle s'appelle Nour, elle a pour habitude de s'échapper du monde dans un bunker sur la plage où elle se masturbe régulièrement parce qu'elle n'a pas vraiment d'endroit où le faire. Et en fait, un jour, au lendemain de la victoire de la France à la Coupe du Monde de football, elle y découvre un revolver qu'elle ramène chez elle, sans oser le donner au commissariat, parce qu'elle devrait alors expliquer ce qu'elle faisait dans le bunker. Donc, le pitch en lui-même est assez intéressant. Mais alors, quand elle rentre chez elle, ce jour-là, son père Saïd, un Algérien qui a trimé toute sa vie, est mort dans son lit. Et tout le livre, en fait, c'est le monologue intérieur de Nour, et toutes les voix et les agressions qui lui parviennent et se mélangent dans sa tête durant la semaine qui va suivre et durant l'organisation des funérailles. Donc en fait, c'est le récit d'une rage qui monte, elle a envie de tuer tout le monde, parce qu'en fait, les amis de son père le font enterrer et font venir un curé sur sa tombe, alors que celui-ci était athée et qu'il voulait être incinéré. Donc Nour, en fait, est dépossédée de cet enterrement, et puis elle se fait agresser sexuellement par son patron, elle perd son boulot. Et en fait, plus sa rage grandit, plus elle brûle de tirer sur la foule avec ce revolver qu'elle a trouvé. Mmh. Et c'est un peu difficile de rentrer dedans au début et de démêler un peu ses pensées, parce que c'est vraiment tout de son point de vue omniscient. Mais en fait, plus on avance dans la lecture, plus on se retrouve pris dans une espèce de magma de ses pensées et de son désir de tout envoyer valser, son insurrection intérieure, vraiment. Et en fait, c'est passionnant parce que si tout est écrit de son point de vue omniscient, on voit vraiment très distinctement tous les personnages autour d'elle, dont beaucoup sont racistes, sexistes, paternalistes avec elle, et on les voit vraiment s'adresser à elle. Et même si c'est son monologue intérieur, en fait, au début, elle est comme silencieuse et inerte, et puis progressivement, elle va reprendre possession d'elle-même et elle va devenir vraiment révoltée. Et elle a aussi cette espèce d'appétit sexuel et cette rage qui vont finir par exploser, sans dévoiler la fin, mais voilà, et qui sont comme une espèce de réponse aussi extrêmement radicale à toutes ces agressions qu'elle vit, et plus largement, un système qui broie les personnes discriminées. Donc, Nour m'a fait penser aussi au personnage de Gloria dans Bye Bye Blondie de Despentes, qui est un personnage très volcanique, très avide de sexe et qui est plein de colère. Et donc, ce livre est vraiment cathartique et sur la forme, c'est une vraie proposition littéraire. Enfin, contrairement à Karine Thuil, désolée pour elle, mais c'est à la fois exigeant et romanesque et c'est très beau.
Waouh, à lire.
Et ouais. Alors, toi, Kiémis, tu voulais nous parler de Tous tes enfants dispersés, qui est un très beau titre.
Ouais, tout à fait. Donc,
très beau titre.
Après les archives des enfants perdus.
C'est très beau, en fait. C'est très beau. Je le recommande. Il est pas très long. Il est très doux, il est très subtil, très poétique. Et j'ai l'impression, en fait, qu'elle nous parle un peu d'elle, l'autrice, en fait, à travers cette histoire. Je pense que je regardais sa biographie, et typiquement, Immaculata, donc la matriarche, c'est quelqu'un de très vivant, qui est prise, en fait, entre sa condition de femme, tous les discours coloniaux qu'on lui a imposés, qu'elle impose à sa fille, et le fait qu'elle est partagée entre ses deux enfants qui sont nés de deux pères différents, l'un blanc et l'autre noir, rwandais, un peu révolutionnaire. Il est vraiment très beau. Et j'en ai un petit peu entendu parler. Je pense qu'il mériterait qu'on en entende vraiment beaucoup plus parler. Je pense que c'est comme onanisme. Et je le recommande aussi.
On est là pour ça.
Ouais. Et toi, Clémentine, du coup, tu voulais nous parler de Mon année de repos et de détente.
Voilà, c'est ça. Alors, un livre qui, contrairement à son titre, n'invite ni au repos, ni à la détente. Donc, c'est un livre de Tessa Moshfegh, un livre d'une autrice qui est d'origine iranienne, irano-américaine. Alors, quand on a du mal à dormir, puisque c'est mon cas, le sommeil, ça peut vite devenir une obsession. Et donc, c'est vrai que le titre de ce livre avait vachement attiré mon attention quand je l'avais vu aux États-Unis. Et je me demandais de quoi ça parlait. Et donc, en fait, c'est pas du tout un livre sur l'autoconservation ou un manuel de self-care, mais c'est vraiment un livre sur l'autodestruction. Donc, après la mort de ses parents et une rupture amoureuse, donc ça se passe au début des années 2000. Même l'année 2001, donc je vous laisse imaginer ce qui s'y passe à New York. Donc c'est une jeune New-Yorkaise qui va décider de s'abrutir d'un cocktail de psychotropes variés et qui va traverser l'existence hagarde et anesthésiée, et rester cloîtrée dans son appartement. Donc c'est aussi un livre générationnel, comme on parlait tout à l'heure du livre de Sally Rooney, mais je pense que c'est pas forcément la meilleure version de ce genre de livre. Ça me fait un petit peu penser au dernier Houellebecq, d'ailleurs, puisque le narrateur organisait méthodiquement sa disparition. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, je pense, si Bret Easton Ellis est fan de Tessa Moshfegh. Je trouve que c'est assez désespérant, bien observé, mais ça m'a laissé un petit peu perplexe. Voilà. Et alors, toi, Anne-Laure, qu'est-ce que la littérature nous dit de la santé mentale ces jours-ci? Des choses.
Ah ouais, parce qu'à la rentrée, il y a deux jeunes autrices qui ont décidé de parler justement de la psychiatrisation des femmes avec des romans vraiment aux antipodes, enfin hyper différents. Chez Albin Michel, Victoria Mas a écrit Le bal des folles. Elle nous propose en fait de faire un petit retour dans le passé au 19e siècle, à la pitié salpêtrière, le service de Charcot, le bien connu. Donc là, elle utilise un personnage qui est... internée de force par son père, parce qu'elle est médium. Et donc, son père considère ça comme une honte. Donc, l'interne à la pitié salpêtrière et rejoint tout un nombre d'aliénés qui, elles aussi, ont souvent été amenées par un mari, un père, un frère, voire un fils, toujours un homme, parce qu'elles sont trop rebelles, parce qu'elles sont polytraumatisées. Et très peu d'entre elles sont touchées par la maladie mentale.
Ça n'a pas tellement changé finalement.
Exactement. Et ce qui est fou, le livre est écrit de façon très scientifique, méthodique. On va pas dire que l'écriture est super poétique du tout, mais il est très documenté, donc on peut apprendre beaucoup de choses de ce livre. Par exemple, que Charcot exhibait ses aliénés préférés.
Sympa.
Qui étaient érotisés. Non seulement dans les photos qu'on connaît tous et toutes, mais aussi lors de Raoult, où il invitait le Gotha parisien à venir voir les jeunes filles déguisées.
En mode zoo humain, quoi.
Voilà,
quelle horreur.
Donc vraiment, c'est vraiment passionnant de retourner dans ce passé-là. On comprend beaucoup de choses, en fait. Et il y a une autre autrice, donc Mathilde Forger, qui, elle, chez Grasset, a sorti un roman qui est vraiment, vraiment différent. Ça s'appelle « À la demande d'un tiers ». Donc c'est un roman qui parle d'une jeune fille qui lutte avec le souvenir d'une mère qui s'est suicidée. Elle va partir à la recherche des causes de ce suicide auprès du service de santé mentale d'un hôpital de province. Et dans cette enquête-là, elle va être confrontée à la violence des hommes. Donc un psychiatre qui lui parle par exemple du fait que la maladie mentale est héréditaire. Sur la suspicion de la maladie mentale, elle écrit vraiment de façon très belle sur le sujet de la relation avec sa mère et ses propres interrogations sur elle. Et tout ça avec beaucoup d'humour aussi. Donc c'est ça qui est chouette. C'est un roman qui se lit vite et qui est très très bien écrit sur un sujet vraiment très très dur. Enfin, on peut pas dire autre chose. Je vous encourage vraiment à le lire et si possible à lire les deux. Parce qu'ils apportent chacun une pierre à l'édifice. On apprend beaucoup de choses de points de vue totalement différents.
D'ailleurs, avec toi, on avait interviewé la dessinatrice Lisa Mandel, qui a aussi fait une BD HP, donc sur l'hôpital psychiatrique.
Oui, qui avait fait deux petites BD sur HP, où elle parlait de la révolution dans les hôpitaux psychiatriques, comment ça a changé avec le temps, et elle travaillait un troisième tome, d'ailleurs.
Et alors, dans un autre épisode, on avait aussi... supplier des autrices d'écrire de la SF féministe. Et toi, tu en as trouvé.
Tout à fait. Merci de m'avoir envoyé autant de recommandations. C'était super sympa. Et du coup, j'ai lu L'incivilité des fantômes de River Solomon, qui a été traduit de l'anglais aux éditions des Forges de Vulcain. L'incivilité des fantômes, c'est le premier roman dystopique de River Solomon, qui est une autrice américaine. Et je vous l'avoue, au début, c'est le froid, c'est l'espace. Je suis pas méga, méga chose. Donc, pour mettre le contexte, en fait, l'histoire se passe dans un vaisseau qui vit depuis très, très longtemps. On imagine depuis des dizaines d'années, voire peut-être même des centaines d'années hors de la Terre. Et donc, il y a une société extrêmement inégalitaire qui s'est constituée, qui nous fait beaucoup penser aux États du Sud des États-Unis au 19e siècle. Donc en gros, il y a des classes les plus basses noires, tiens, sont réduites en esclavage, tiens, et qui ont le moins accès aux ressources et qui ont le moins accès à la chaleur qui est produite par des petits soleils. Donc l'histoire en fait c'est l'histoire donc de Aster qui est l'héroïne qui a un complice des classes supérieures qui lui enseigne à guérir donc elle essaie d'utiliser ce savoir-faire pour guérir les personnes qui sont dans les classes les plus basses et un jour en fait elle décide de suivre l'histoire cachée de sa mère qui a disparu à sa naissance et elle essaie justement de découvrir l'histoire derrière la disparition de sa mère. Donc le livre, comme vous pouvez vous en douter, parle beaucoup de racisme, de suprématie blanche. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, dans le livre, la suprématie blanche, elle est à la fois politique, mais elle est aussi construite sur une base religieuse. Donc en gros, les blancs sont, en tout cas les classes supérieures qui sont blanches, ont été investis de leur pouvoir par un être supérieur religieux, etc. Et ce livre parle aussi beaucoup de la masculinité, notamment de son complice. Comment, en fait, les deux choses sont adossées parce qu'effectivement, les représentants, vous pouvez vous en douter, les représentants donc du pouvoir sont blancs et sont des hommes. Et comment, en fait, son allié, je ne vais pas trop vous spoiler, mais comment, en fait, on interroge, en fait, elle-même à travers leur appartenance, entre guillemets, à deux genres. Et donc, j'ai trouvé finalement assez intéressant. Je pense que pour moi, au début, c'était difficile de rentrer dedans parce que voilà, c'est des thèmes qui me rendent un peu claustro, l'espace et les vaisseaux. Mais quand on rentre dedans, quand on s'attache au personnage Aster, finalement, après, l'histoire, elle se déroule assez vite. J'aime beaucoup le personnage de son ami qui est un peu... qui est d'ailleurs aussi... on parle beaucoup de la question de la santé mentale parce qu'elle est vue comme folle, mais en fait, finalement, elle est extrêmement intelligente et extrêmement volcanique. J'aime beaucoup le mot volcanique. Et donc, voilà, j'ai trouvé... finalement, c'est vraiment une recommandation. Et puis, enfin, la science-fiction féministe. Enfin, il y en a d'autres, j'imagine, mais en tout cas, là, c'était bien de le lire, en tout cas.
Bon, j'espère qu'on a un peu déblayé cette rentrée littéraire dans laquelle il y a pas mal d'appels à l'insurrection, et c'est tant mieux. Et alors, vous pouvez retrouver tous les liens dont on a parlé dans la description de l'épisode.
Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter. Et n'hésitez pas aussi à venir nous dire ce que vous avez lu à la rentrée littéraire, ce que vous planifiez de lire, ce que vous allez esquiver dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas les étoiles sur Apple Podcasts.
Et alors nous, on se retrouve avec Pauline la semaine prochaine pour parler d'une série dans un épisode court. Salut les filles.
Salut, salut.
Salut.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté par Kimis,
Anne-Laure Pinault,
Captain Archie,
Pauline Verdusier.
Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Montage et mixage, Laurie Galligani. Prise de son et coordination, Ashley Tola.